Alors voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi le 24 mai 2013 et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission qui favorise la parole des victimes prioritaires. Alors avant de débuter cette émission, permettez-moi cette fois d'ouvrir une parenthèse en guise d'avertissement et d'information à tous nos auditrices et auditeurs. Un rappel important, vous devrez noter que le mouvement Action Justice est un organisme de but non lucratif. Notre équipe travaille bénévolement depuis son existence. Notre organisme existe depuis plus d'une dizaine d'années et nous n'avons jamais, et je répète et je le dis bien, jamais chargé aucun frais pour les services rendus à la population. Alors nous sommes avant tout des simples citoyens ou témoins de l'abus de l'autorité, de l'arbitraire, de l'injustice au Québec. Alors que nous avons naïvement pensé à une certaine période que le système de justice en fonction au Québec était exemplaire, mais malheureusement, nos expériences, nos contacts, notre mission, le terrain et la réalité nous ont confirmé clairement que l'application de ce système de justice n'est qu'un écran de fumée pour tenter de masquer l'échec de notre système judiciaire qui échappe à son tour à tout contrôle. Alors je profite pour vous rappeler que l'appareil de notre système judiciaire fonctionne à la dérive et aux règles imposées. Elle fonctionne au détriment des plus faibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas des éléments, ou même si vous voulez, ça ne veut pas dire justement qu'il n'y a pas des éléments qui agissent de bon foi, mais je veux dire que cet appareil a pris un mode de fonctionnement qui ne respecte pas, dans la plupart du temps, les lois imposées. Voilà pourquoi, alors, il devient difficile, voire même impossible, pour le moment, de redresser quoi que ce soit dans cette machine. Alors, d'ailleurs, nous avons un meilleur exemple dans le scandale de la collusion et la corruption au Québec, une machine qui fonctionnait à sa guise merveilleusement depuis des décennies sans que personne n'ose dire un mot. Pourquoi ? Parce que cette machine est devenue plus forte que l'État elle-même. C'est elle qui dictait les règles et les enjeux du marché politique et social. Aujourd'hui, connaître l'existence de la corruption et la collusion à ce niveau impressionnant ne surprend personne. Ce n'est pas une surprise en soi, mais dévoiler au grand jour l'existence et le fonctionnement de cette terrible machine qui a échappé vraisemblablement à tout contrôle démontre tout simplement à quel point notre système politique était pourri et cette lourde facture où le prix à payer sera collé au dos des contribuables. Aujourd'hui, la commission Charbonneau est venu symboliquement dire stop, stop, cette machine était allée trop loin, elle a causé énormément de dommages et le corps social malheureusement est affaibli par cette hémorragie, cette perte de confiance jamais vue. Attention, l'existence de la corruption et la collusion au Québec et l'implication du crime organisé par exemple dans l'industrie de la construction n'est pas une surprise en soi, mais les révélations démontrent à quel point aussi notre système est pourri. Et encore mieux, personne n'a pu le dénoncer pendant toutes ces années. Alors maintenant, le système judiciaire est tout à fait pareil. Nous savons tous que les injustices au Québec existent au grand jour, mais personne n'ose encore de mettre ses culottes et exiger une commission qui va derrière les barreaux interroger justement les innocents, ouvrir les dossiers de nouveau. C'est la machine qui décide. C'est la machine qui décide dans un dossier fermé, scellé, difficile même, impossible de revenir en arrière. La machine en œuvre présentement est conçue d'avance et jamais elle ne peut faire marche arrière. Alors, excusez-moi, je reviens au plus important de mon sujet du départ. Pour ces injustices et cette population qui est à la revanche d'un semblant, à la recherche si vous voulez aussi d'un semblant de justice, notre organisme est créé avec des ressources financières honteuses de les dévoiler et nous avons compris aussi que la subvention qui nous a été accordée à notre organisme n'est qu'un faux prétexte politique pour dire « regardez, nous encourageons les associations en défense des droits de la personne », mais en réalité, avec une somme dérisoire, nous sommes nous-mêmes piégés presque dans l'inaction. Mais ça n'empêche pas que l'organisme demeure bénévole et que tous nos services sont gratuits, si le fondement même de notre politique, nous défendons les démunis de la société, les plus fragilisés, celles et ceux qui luttent pour la justice et l'égalité, et venir, et justement, venir demander à ces victimes-là quoi que ce soit en nom du mouvement Action Justice est strictement, et je dis bien strictement, interdit. Attention aussi à ce type qui va ou qui vous parle de cette formule magique: je travaille bénévole, mais vous devrez me payer $300 par semaine. Sinon, j'abandonne tout. Alors écoutez, si quelqu'un, en nom de MAGE, en nom du mouvement Action Justice, vous a demandé de l'argent concernant n'importe quel dossier, n'hésitez pas de nous appeler au 514-273-4302. Je répète, au 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com, info@commercialmage-québec.com. Alors, je vous rappelle que le mouvement Action Justice offre tous ses services gratuitement, sans condition préalable. Nos bureaux sont ouverts de 9h à 15h tous les jours de la semaine. Bienvenue d'ailleurs à tout le monde. Voilà pour cette parenthèse. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme de but non lucratif. Vous comprenez que les gens qui veulent faire des profits sur le dos des victimes ne sont pas les bienvenus chez nous. Et nous encourageons l'aide mutuelle de chacun parmi vous. Après notre thème musical, chers auditrices, chers auditeurs, l'habit de l'autorité de la Direction de la protection de la jeunesse revient sur le tapis. Et je le dis sincèrement, celles et ceux qui tentent de poursuivre la Direction de la protection de la jeunesse pour crimes contre l'humanité n'ont pas tort. Deux invités de ce matin. Marie commentera des articles parus à la première page de nos journaux concernant la Direction de la protection de la jeunesse, et M. Sylvain Paquette souhaite à son tour lever le voile sur les médias dans le système québécois. Demeurez à l'écoute, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, télévisée de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un parfum scène est à la lune.
Alors voilà, rebonjour chère auditrice, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors pour cette émission, celles et ceux qui suivent nos émissions savent très bien que nous avons dénoncé à plusieurs reprises l'abus de l'autorité de la direction de la protection de la jeunesse. Il y avait des témoins qui se sont déplacés sur ce plateau pour nous raconter l'enfer de la DPJ. Et je suppose que même la direction de la protection de la jeunesse elle-même s'est rendue compte et depuis longtemps qu'elle a perdu le contrôle de cette machine, la DPJ, qui va à perte de vitesse pour détruire au lieu de construire. Alors la question ne se pose plus à ce niveau. Il est tout à fait évident depuis plusieurs années que la direction de la protection de la jeunesse avait échoué dans sa mission, celle de protéger les enfants au premier abord. Vous comprenez, chère auditrice, chère auditeur, plus facilement, et je cite un simple exemple. En 2012, il y avait plus de 1400 enfants et adolescents qui ont fugué des centres de jeunesse au Québec. Des centres qui sont sous la supervision de la direction de la protection de la jeunesse. Autrement dit, on arrache les enfants à leurs parents à raison ou à tort et nous ne sommes pas capables de les protéger. Combien maintenant sont-ils de ces enfants que la DPJ qui se sont disparus et qui n'ont jamais pu être récupérés ? Mystère. Combien de ces enfants et ces ados qu'ils étaient ou qu'ils sont exploités par les gangs de rue? Mystère. Aucun chiffre. Combien de ces enfants qui sont devenus des prostituées dans les bars clandestins? Mystère. Aucune réponse aussi. Alors, en 12 mois seulement, 1400 enfants et ados se sont retrouvés dans les rues sans supervision aucune et pourtant ces enfants-là n'ont jamais fréquenté ces milieux auparavant. Et ils sont sous la supervision de la protection de la DPJ. La question n'est pas qu'on ne peut pas les garder enfermés, mais plutôt qu'est-ce qui a fait que ces enfants se sont poussés de ces centres et de ces foyers? S'ils étaient tellement bien, pourquoi ils vont se jeter dans la gueule du lion alors qu'ils sont bien? Et ici, attention, il ne s'agit pas de 2, de 3 ou de 5 ou de 6 personnes, mais... La question de, c'est pas aussi une question de mauvais comportement ou bien un enfant difficile ou autre, mais là il s'agit à titre d'exemple simplement pour une période de 12 mois. 1400 enfants et ados se sont sauvés des centres de jeunesse. Il y a un problème et un vrai problème. Mais qui parlera de ce problème? Savez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, combien d'enfants sont présentement sous la supervision de la protection de la jeunesse? Ils sont au Québec environ 12 000, je dis bien 12 000 enfants, environ 12 000 enfants et ados. C'est toute une population. Imaginez-vous qu'il y a des mères que j'ai rencontrées, ils ne veulent pas avoir d'enfants de crainte que la DPJ va les enlever leurs enfants. Un signalement, n'importe qui peut le faire à tort ou à raison, n'oublie pas ce que je vous ai dit à propos de ce système machine qui est hors contrôle, la direction de la protection de la jeunesse, n'est pas exclu de cet exercice. Je dirais même que cette institution est la plus dévastatrice de toutes les institutions de l'État. Et je peux témoigner personnellement qu'à la suite de nos interventions, certains fonctionnaires de la direction de la protection de la jeunesse se sont même vengés, imaginez-vous, contre qui? Contre les maires que nous avons accompagnés ou tenté de les aider. Ce qui explique d'ailleurs que les règles établies, non pas par la loi, mais par les agents de cette institution, devraient, et je dis bien devraient faire l'objet d'une révision profonde qui peut être effectuée justement par une commission d'enquête publique, par exemple. Mais aucun gouvernement jusqu'à présent au Québec n'a voulu ouvrir cette trappe qui dérobe forcément des atrocités non désirables. La chose qui entache le plus l'histoire du Québec, c'est la non-protection des enfants québécois, et ceci depuis les orphelins de Duplessis à nos jours. Bref, n'attendez pas que nos politiciens vont manifester quoi que ce soit envers ce dossier qui devient de plus en plus compliqué, mais en revanche, il y a un petit espoir qui clignote à l'horizon. Nous constatons une mobilisation prometteuse d'ailleurs au sein de la population qui désire s'investir dans ce dossier, et ces cercles, je dis bien ces cercles, sont en train de grandir d'une place à l'autre, et un jour proche, ils vont aboutir à cette fin indétournable de l'histoire du Québec. Cette mobilisation, chères auditrices, chers auditeurs, justement, qui se construit à travers le Québec, fait peur à la direction de la protection de la jeunesse, parce qu'ils sont les premiers à rendre des comptes, et quels comptes, une fois, l'interrogation s'ouvre. Alors, ils essayent à travers les médias, nos médias traditionnels, et vous savez malheureusement de quoi je parle, de journalistes fonctionnaires qui exécutent les ordres sans poser de questions aucune. Ces journalistes eux-mêmes sont victimes de ce système qui leur dicte des normes pour forger et empêcher l'individu à prendre des positions. Autrement dit, le rôle de la presse aujourd'hui, c'est corrompre la pensée collective, la déformer, formater les esprits et les mettre en veilleuse. Imaginez-vous, avec des simples niaiseries, je dis bien des niaiseries, ils arrivent à convaincre les citoyens d'épouser des idées reçues sans fondement. Alors vous avez tous vu ou bien lu, la semaine passée dans nos journaux, à la une même, des titres comme « 450 enfants dénoncent leurs parents ». La surface de la première page du Journal de Montréal était réservée presque uniquement à ce titre en caractère gras et énorme avec la notion d'épigée à côté. Imaginez-vous, chers auditeurs, 450 enfants parmi 12 000 enfants. Ce journal ne parlera jamais du reste de ce calcul. 11 500 enfants qui restent. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Leur avenir, leur scolarité, le nombre de fugues quotidiennes, la drogue, la prostitution, la déchéance, le trou noir dans lequel ils se sont retrouvés. Qui va nous parler de tout ça? Personne. Alors, maintenant, je poserai aussi, et qu'est-ce que vous attendez, d'un tel titre, sinon encourager les enfants et les ados qui refusent l'autorité parentale de trouver derrière cet appel une porte de sortie, bien sûr, sans qu'ils sachent réellement qu'est-ce qui les attend derrière cette porte? L'enfer de la DPJ. Plusieurs citoyens victimes de la DPJ, des organismes, des mouvements en défense des droits de l'enfant et des parents, ont tenté par tous les moyens de trouver quelqu'un pour publier leur vécu avec la DPJ. Aucun journal ou poste de télévision n'a accepté de passer leur témoignage intégralement. Mais quand le gouvernement le demande, tous les médias vont courir à l'exécution sans souci de conscience. Alors le citoyen n'a jamais été vidé de son poids, comme il l'est présentement. Aucune valeur, aucune considération, c'est la machine qui passe avant tout, le reste n'est pas important. 450 enfants dénoncent leurs parents. La signature de la DPJ n'est pas loin de ce titre. Et quand j'avais lu ce titre la semaine passée, j'avais un pincement au cœur. Parce que je connaissais une mère monoparentale qui avait comme capitale de vie sa fille. Cette fille, elle avait 14 ans, elle était très bonne à l'école d'ailleurs. Elle avait des valeurs comme le respect, l'amour de la culture et j'en passe. Et la mère n'avait rien de prioritaire que sa fille. Alors, c'était sa fille unique. Elle était un peu sévère concernant les études de sa fille, mais pas plus que ça. Alors un jour, cette fille, elle a eu une mauvaise fréquentation à l'école. Une amie qui vit dans un centre de jeunesse lui a fait l'éloge de la liberté et ses avantages. Et c'est bizarre comment elle a réussi à la convaincre à suivre le pas. Bref, donc la DPJ est rentrée rapidement dans le décor et tout a basculé. La fille avait raconté quelques mensonges, fabriqués de toutes pièces. Et elle n'avait pas bien besoin de plus. Elle a eu ce qu'elle voulait. La mère, la pauvre elle savait que sa fille venait de commettre l'irréparable, mais elle était impuissante de changer quoi que ce soit. La machine est partie. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Et la fille me disait 4 ans plus tard qu'elle regrettait énormément d'avoir mis les pieds dans cette machine. Quelques mois plus tard, justement, elle s'est sauvée du centre de la jeunesse et elle a vécu en fugue dans les beaux lieux de Toronto. Et elle a tenté de reprendre contact avec sa mère à l'âge de 18 ans. Elle était devenue d'ailleurs une mère à son tour, d'un père inconnu, et elle travaillait comme danseuse nue dans la région de Toronto. Bravo, je dis bien bravo, la direction de la protection de la jeunesse. Alors maintenant, après la publication de cet article à la une du Journal de Montréal, il y avait un article qui est apparu le lendemain, cette fois à la une aussi du Journal de la Presse, intitulé « Les parents de la DPJ ». Cette fois, c'était à partir d'un atelier de compétences parentales. L'auteur de l'article avait soi-disant enquêté sur 6 parents qui ont suivi cet atelier pour acquérir des compétences parentales. Chercher des outils et comprendre comment vivre avec leur enfant. Alors je me disais, même les animaux n'ont pas besoin d'un atelier pour acquérir ce que la nature offert par instinct. Alors bref, n'importe quoi, je dirais bien n'importe quoi, 450 enfants dénoncent leurs parents et les 6 parents de la DPJ à la recherche de la compétence parentale, c'est vraiment du n'importe quoi. La presse québécoise fait honte. Il est où le rôle et le devoir de la presse? Est-ce la censure seulement qui dicte ou bien la loi du plus fort qui donne à son tour? Alors maintenant, je dis à ces parents qui ont de la difficulté avec la vie de tous les jours, vos enfants, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Épargnez-les, s'il vous plaît, de l'enfer de la direction de la protection de la jeunesse. Je dis aussi à tous les victimes de la DPJ, vous êtes nombreux et votre voix commence à déranger. Restez solidaires, profitez de vos expériences pour s'entraider, partagez votre savoir et vos connaissances. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous impose sa volonté. Vous arrivez en équipe à faire la défense et faire aussi la différence. Évitez d'être ruiné sur les mains de personnes qui profitent de votre vulnérabilité. Choisissez toujours un bon avocat et prenez le temps d'en trouver un avec qui vous arrivez à s'entendre. Restez toujours calme malgré les provocations des agents de la DPJ. N'abandonnez jamais la partie. Il s'agit de vos enfants. Organisez-vous et mettez justement votre malentendu derrière. Vous avez besoin de votre énergie, de vos forces. Vous êtes victime ou témoin de l'abus de la direction, de la destruction de la jeunesse au Québec. Venez rejoindre le groupe Demeurez solidaire. Organisez des manifestations pacifiques, intelligentes. Votre voix arrivera tôt ou tard à changer des choses et épargnera peut-être aussi d'autres l'enfer de cette institution, la DPJ. Nous allons, chers auditrices, chers auditeurs, faire une petite pause musicale et je demanderai à mon invité qu'est-ce qu'elle pense justement de ces articles qui ont fait la une des pages de nos journaux à Montréal et en particulier celui de 450 enfants dénoncent leurs parents. Alors restez à l'écoute, je reviens avec vous après la pause musicale.
Peu importe les ennuis, notre amour survivrait. Une bonne nuit d'amour nous suffirait. Mais qui aurait cru qu'on se parlerait plus? Que sur notre belle parade, un jour il n'aurait plus. Que tu verrais plus en moi cet homme qui t'a plu autrefois. Et pour m'en parler, j'aurais même plus de voix.
Je me suis dit, je serais mieux sans toi. Que ça ne marcherait pas. Faudrait mieux que l'on arrête là. Je me rends seule comme elle est compagnie. Je l'ai toujours pensé. J'ai besoin que tu comprennes que. Tu sais que tu vois en moi. Quand tu me regardes, je pense que tu sais. tu comprennes que
je reconnais tu manques. Je souhaite que mes sentiments me mentent, mais me disent vrai. Pour de vrai, je peux pas dire ça m'enchante. Mais au fond de moi, en secret, j'aimerais que tu m'entendes. Je peux pas l'admettre, car de mon cœur, je dois rester le maître. Bien que ma mère dit que penser comme ça, c'est elle bête. Je fais la fête pour que les pensées dans ma tête arrêtent. Je me pousse à bout jusqu'à brûler comme une cigarette.
Je me suis dit, je saurais, mais sans toi, que ça ne marcherait pas. Faudrait mieux que l'on arrête là. Je veux me rendre seule comme elle est compagnie. Je l'ai toujours pensé. J'ai besoin que tu comprennes que till now.
Voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors je commence directement avec mon invité Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors vous êtes là pour justement commenter les deux articles que nous avons eus. Il s'agit du premier article qui est les parents de la DPJ qui est paru le 17 mai. Et puis il y a un qui apparaît le 450 enfants dénoncent leurs parents, qui apparaît le 16 mai.
Oui, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire? Est-ce que vous êtes témoin de la DPJ? Comment vous...
Oui, je suis témoin de plusieurs méfaits de la DPJ, malheureusement,
oui.
Et de plus en plus.
Ok.
Quand j'ai vu l'article, comme à chaque fois que je vois le mot DPJ, oui. Je m'intéresse et tout.
Ok. Mais quand vous avez vu comme ça les parents de la DPJ, ça vous fait quoi? Je ne parle pas du deuxième article du Journal de Montréal, c'est encore catastrophique, 400 enfants dénoncent leurs parents, on va rentrer. Mais d'abord, on parle de celui de la presse.
Ben, j'avais l'impression au départ qu'on parlerait effectivement des parents de la DPJ. Par contre, quand
j'ai... Il y avait les enfants des DPJ, maintenant c'est les parents de la DPJ.
Voilà.
Okay.
Par contre, quand j'ai commencé à lire l'article, bon, j'ai vu effectivement qu'on parlait de 6 parents qui ont fait l'objet d'un signalement à la DPJ.
C'est ça.
La presse les aurait suivis pendant 10 semaines.
Oui.
Pour des ateliers de compétences parentales.
Mais on ne sait pas qui a demandé à la presse d'aller suivre ces gens-là. Là.
Non, ça on l'ignore.
C'est
pas mentionné
ça,
nulle
ouais,
part.
C'est ça.
Ces 6 parents-là ont fait le cours de parents 101 ouais. dans le but de récupérer ou de conserver la garde de leur enfant.
Okay.
Bon, jusqu'ici, on se dit
mais
que c'est une bonne chose.
Est-ce que vous avez une idée sur le cours, là, le contenu du cours?
Non. Effectivement, dans l'article, ce qu'on remarque, c'est que tout ce qui est décrit, c'est certaines anecdotes dont parlent les animateurs des ateliers.
Oui, oui.
On n'a aucune idée de ce qui se passe dans ces ateliers-là, le contenu. On n'a aucune idée non plus des résultats pour les parents et les enfants qui
ont participé. Mais ce n'est pas juste ça, Marie. On parle de la compétence parentale. C'est-à-dire
oui.
que ces gens-là, ils n'ont pas la compétence parentale.
Ben, il y a certaines lacunes au niveau des compétences parentales. Oui. La DPJ a retenu le signalement qui a été fait contre oui. eux. Et puis, ça fait partie, en fait, des démarches que les parents doivent entreprendre pour récupérer ou garder leur enfant. Suivre un cours de compétences parentales.
Moi, ça résonne mal dans ma tête, là, quand j'entends suivre un cours de compétences parentales. Et on arrache l'enfant, on prend l'enfant, là.
Certains de ces enfants sont placés, d'autres non.
OK.
Donc, on connaît pas les conditions.
Mmh, oui.
On sait rien de ça. On sait rien non plus des résultats. Est-ce que c'est positif à la fin des ateliers? Est-ce
ben,
que
ils nous expliquent rien du tout de ça, là.
Ouais. On n'a aucune idée de comment ça se passe ni de comment ça se termine.
Okay.
On ne sait pas si les enfants sont de retour chez leurs parents après avoir fait avec eux l'atelier ou les ateliers proposés par la DPJ
ouais.
ou imposés, plutôt, je devrais dire. Certains parents vont même jusqu'à faire 4, 5, 6 sortes d'ateliers différents,
oui.
Les uns après les autres, dans le but d'améliorer leurs compétences, de développer tout ce qui est nécessaire à l'éducation de leur enfant. Évidemment, ici, on parle d'un groupe qui est la DPJ, qui va être chargée de l'évaluation, de l'orientation des signalements, de prendre des décisions pour les parents, pour les enfants, pour les conséquences dans le futur.
Oui.
Maintenant, une fois que l'enfant est placé ou a été pris en charge par la DPJ, dans ce que j'ai vu, en tout cas jusqu'à maintenant, il est très rare que les parents récupèrent leur enfant après des ateliers de développement de compétences parentales.
C'est pas aussi facile pour
le monde. Non, effectivement. Le développement d'un enfant, c'est beaucoup plus large que simplement de 0 à 6 ans. Ça s'étire, je dirais, toute la vie. Quand on est parents pour la vie.
Mais ils n'ont pas pu garder l'enfant avec ses parents et en même temps essayer de les aider sans placer l'enfant, sans séparer l'enfant de ses parents. Ce n'était pas possible, normalement.
Puis souvent, l'enfant est placé dans des endroits où lui ne reçoit aucune aide. Mm-hmm. Pendant que les parents se font, en guillemets, aider par la DPJ, mm-hmm. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre le signalement, entre les démarches, entre un possible retour de l'enfant.
Mm-hmm.
C'est incroyable. On ne sait pas vraiment ce qu'ils demandent aux parents, parce qu'il faudrait que le parent soit déjà parfait au départ.
Parfait, oui.
Sinon, on doit suivre des ateliers de compétences parentales pour garder ou récupérer nos enfants.
Okay.
Je me demande alors pourquoi on ne suivrait pas ce genre d'atelier-là avant d'avoir des enfants.
Ouais.
Malheureusement, je me suis informée. Puis ces ateliers-là ne sont pas disponibles aux parents, au commun des parents, si je peux m'exprimer ainsi.
Ouais.
C'est seulement accessible aux parents qui ont fait l'objet d'un signalement à la DPJ. Donc, comment développer ses compétences parentales avant d'avoir des enfants pour ne pas risquer qu'on nous les enlève, c'est un mystère.
Mmh.
Voilà.
Et le plus grand mystère aussi, comment la presse s'intéresse à un atelier en particulier?
Effectivement, puis on dit que la presse les a suivis pendant 10 semaines.
Oui.
Mais on n'a aucun détail sur la façon dont les parents ont progressé ou est-ce qu'il y a des parents qui sont partis de ces ateliers-là? Est-ce que tout le monde a continué jusqu'au bout? On ne sait rien. L'article nous parle de plusieurs anecdotes concernant des parents, des anecdotes pas trop réjouissantes, je dois vous dire. Et puis, les deux animateurs semblent avoir beaucoup de plaisir à raconter ces anecdotes-là au sujet des parents, mais rien n'est dit par rapport aux 6 parents suivis pendant 10 semaines par la presse. On ne sait rien d'eux à la fin de l'article.
Mais la version de ces parents-là, jamais, parce que moi j'ai eu plusieurs témoins, ces victimes-là, quand ils veulent par exemple communiquer leur version à la presse, aucun journaliste ne prendra leur version.
Non, les journalistes ne rappellent pas. Les journalistes, on voit souvent, on parle de la DPJ, c'est jamais arrivé qu'on dise que la DPJ ne faisait pas un travail adéquat là, dans les circonstances. On est toujours en train de vanter les mérites de la DPJ dans les journaux et puis on raconte jamais vraiment ce qui se passe. Les gens qui se tournent vers les journalistes pour avoir de l'aide pour diffuser l'information se voient fermer la porte au nez.
Oui.
Je connais ça.
Ouais. Mais c'est quand même étrange. Mais passons maintenant à l'article numéro 2, par exemple. 450 enfants dénoncent leurs parents. Alors, c'est un autre article aussi. C'est bizarre, là. Pourquoi vous voyez que, à votre avis, citoyen, pourquoi, à votre avis, les journalistes, maintenant, ils s'intéressent à mettre des titres comme ça, mais sont vides, le contenu est vide.
On dirait qu'ils cherchent à s'attirer la sympathie des gens.
Exactement, oui.
Je dirais. C'est clair qu'on a besoin de la DPJ pour protéger nos enfants, mais c'est clair aussi qu'il y a un ménage à faire à plusieurs niveaux.
Un grand ménage à faire.
Ouais. Et puis, quand je vois ces articles-là, les gros titres, les gros chiffres là, dans les pleines pages, et puis ça me donne vraiment l'impression que la DPJ cherche à calmer les gens au sujet des... des nombreuses dénonciations qui sont en cours.
C'est ça, oui. Parce qu'il y en a de plus en plus. La DPJ panique un petit peu, là.
Oui, on dirait bien. C'est vraiment deux journées, un à la suite de l'autre. On a vu, là, la DPJ qui vante ses mérites et qui vante le fait qu'elle soit là pour protéger les enfants.
Je me demande si c'est la DPJ qui demande aux journalistes de faire ces articles-là ou si c'est le gouvernement. Ça vient sûrement pas d'un journaliste lui-même qui s'est intéressé à ce sujet-là.
J'imagine que la DPJ, écoutez, ça vient pas de nulle part.
Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Ces chiffres-là viennent de quelque part parce qu'ils sont, on dit, 450 enfants, puis ça représente à peu près 1 % des signalements.
Non.
Donc, c'est pas, les journalistes peuvent pas non plus prendre des chiffres dans les airs. Donc, c'est évident que quelqu'un les approche pour faire ce genre d'article.
Alors, pour ces enfants-là qui dénoncent leurs parents?
Bien, comme je vous disais, c'est à peu près 1 % des signalements qui sont reçus par la DPJ, qui proviendraient des enfants eux-mêmes. On y lit que la plupart des cas concernent des crises familiales et d'autres des cas d'abus. Les signalements ne sont pas toujours retenus. Par exemple, les crises familiales où les parents menacent l'adolescent de le chasser de la maison. Certains enfants, lors d'une chicane, vont appeler, puis c'est la porte de sortie, bon, mais je vais appeler la DPJ, puis je
maintenant,
vais...
Maintenant, tu es en train de le dire que c'est les enfants qui menacent les parents, finalement.
Voilà.
Ouais, ils ont trouvé cette solution-là de menacer les parents, de dire, écoutez, là, si vous fermez pas votre gueule, là, j'appelle la DPJ, et je m'en vais.
Voilà.
Ça. Et la DPJ sont là pour les aider. On ne dit pas protéger parce qu'ils ne les protègent pas, au fond.
Non, un enfant qui va appeler, je vous donne comme exemple, un tel jeune et tout, souvent, l'organisme va référer à la DPJ. Oui. Vous va dire à l'enfant de s'en référer à la DPJ parce que les comportements de ses parents sont abusifs ou peu importe.
Oui.
Les enfants, les adolescents qui sont en colère parfois contre leur famille pour toutes sortes de raisons... Ils utilisent ces moyens-là pour provoquer, faire peur aux parents, puis se retrouvent trop souvent dans une situation qui les dépasse après ça. Parce
Et les parents ont peur aujourd'hui. Là.
Oui, ils ont peur parce que maintenant, c'est...
Il y a une menace réelle.
Les gens ont le devoir de signaler un enfant à la protection de la jeunesse. Ils croient que sa vie est en péril ou qu'il est en danger. Par contre, au niveau de l'évaluation d'un danger réel pour un enfant...
Ces enfants-là, ils font des démarches, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Là.
Non, puis on n'a pas les chiffres des signalements qui sont retenus sur ces 450-là. Est-ce que ces 450 enfants, c'est moitié-moitié des abus physiques réels ou si en majeure partie, c'est des enfants qui dénoncent pour provoquer leurs parents? On ne sait pas les chiffres réels, en fait.
J'ai vu ça, il y a une couple d'années, quand je suis pas bonne. Une jeune fille, je pense, avec à peu près 14 ans, puis son père, il avait dit, tu sors pas à soir. Oui, je sors. Oui, je vais sortir. Non, tu sors pas.
C'est la réalité.
Ben, je vais appeler la DPJ. OK, attends-moi ici. T'es allé chercher des valises, tiens, appelle la DPJ.
Amen.
Elle rentrait en dedans, puis elle pleurait la petite fille.
Il y en a d'autres qui veulent simplement...
Mais les enfants qui sont bons, là.
Oui, c'est ça. Lui, c'est pas laissé intimider par ça. Ben, appelle-la à DPJ.
Le problème, c'est que ces enfants-là, une fois, ils vont partir, ils vont quitter le foyer, les parents, ça se vient pour eux, ça devient difficile de revenir en arrière. Alors, ils vont se casser la gueule de plus en plus.
Oui.
Moi, j'avais de toute façon des témoignages comme ça.
Ou des enfants qui font des fuites, là, ils se retrouvent à la DPJ.
Oui.
Souvent, c'est un problème là, au niveau d'une crise familiale qui pourrait être résolue avec un peu d'aide. Là,
Oui, médiation entre les parents.
Et puis, il n'y a pas vraiment d'aide concrète quand les familles sont en crise.
Oui.
Puis, tous ces enfants qui essaient d'attirer l'attention en racontant toutes sortes de choses se retrouvent pris dans l'engrenage après.
Vous êtes une mère aussi, Marie. Est-ce que vous voulez envoyer un message pour surtout ces enfants-là, ces jeunes-là, je ne sais pas s'ils sont en train de nous entendre aujourd'hui, de leur dire il faut vraiment... Peut-être c'est beaucoup mieux de rester avec vos parents que d'aller dans les bras des DPJ.
Eh bien, j'encourage les enfants qui sont victimes d'abus réels à dénoncer.
Ah, ouais.
Mais j'encourage tous les jeunes qui sont juste en colère et puis qui pensent à appeler la DPJ. Prenez le temps de descendre un peu. Réglez vos choses avec vos familles. Je pense que vous êtes mieux chez vous que dans ces centres-là, dans ces foyers-là, où ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas des gens qui sont aussi proches de vous que votre famille, qui vont vous comprendre. Pareil, vous êtes des numéros. Et ça ne changera pas à ce niveau-là.
Exactement. Alors, juste, on va faire une petite pause musicale. On va revenir vraiment avec le deuxième cas que j'ai pour aujourd'hui, M. Paquette, Sylvain Paquette.
Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser t'y noyer? Qui me saoule, toi qui m'enivres. Elle qui saigne mon cœur, toi qui le ravive. Ah, 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 délice pernicieux. Affectif.
Alors voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission 10 mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors, chers auditrices, nous allons maintenant enchaîner avec un autre sujet où, malheureusement, les médias sont présents. Nous avons entendu l'histoire de Monsieur Sylvain Paquette, je vous la rappelle brièvement. Alors, c'est un entrepreneur qui a été engagé d'effectuer des travaux dans un commerce à Laval. Bref, le propriétaire du commerce n'a pas sécurisé suffisamment l'endroit. Notre invité, M. Sylvain Paquette, lui a demandé et même exigé Il y avait même des discussions avant le commencement de ces travaux. Résultat, M. Sylvain Paquette fait une chute de plusieurs...
De 16 pieds.
Alors, résultat aussi, 27 fractures. Bref, fin de carrière et une vie brisée en deux. Alors, il tente une poursuite de 280 000 $ contre le propriétaire du commerce. Les choses ne fonctionnent pas très bien. Une entente de foutaise est négociée en cours et l'avocat, selon M. Paquette, avait accepté cette entente sans l'accord de la victime dans ce dossier. Est-ce que c'est exact, monsieur?
Exact.
Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que le juge qui présidait cette cour, c'était le juge Michel Diziel, juge de la Cour supérieure. Alors, M. Sylvain Paquette avait écrit à cette période à tous les journaux, il a contacté Radio-Canada et plusieurs médias, mais personne n'a retourné ses appels. Le jour où la commission Charbonneau avait révélé l'implication douteuse du juge M. Michel Diziel, tous les médias ont contacté M. Paquette pour écouter son histoire. Bonjour M. Paquette.
Bonjour. Oui, effectivement, c'est ça, la journée...
Qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'avais envoyé plusieurs courriels, à plusieurs médias, Journal de Montréal, je n'aimerais pas les noms, là.
Ouais.
Bon, Journal de Montréal, La Presse, Radio-Canada, et ainsi de suite.
Ça, c'est il y a un an...
Juste une couple de semaines, deux, trois semaines avant qu'il dénonce le juge Michel Diziel, là.
De ces choses...
qui aurait fait frauduleusement, là.
Oui.
Qui est sous enquête présentement.
Mais avant cette date-là.
Personne ne m'a contacté.
Vous avez communiqué avec tous les journaux, ouais. Vous avez tenté de faire toutes les démarches possibles. Aucune source de médias n'ont pu vous contacter ou bien prendre la peine de répondre à vos appels.
Oui, il y en a un qui m'a appelé, m'a emmené chez JE, puis il me dit « Ah, M. Paquette, votre histoire, c'est que le problème, c'est que si on essaie d'appeler votre avocate,
ouais.
Elle ne voudra pas nous donner sa version des faits.
Okay.
Mais monsieur, vous n'avez pas moins la version des faits de l'avocate. J'ai toutes les CD audio.
Mm-hmm.
J'ai les notes sténographiques. J'ai tout pour démontrer qu'elle contredit ces versions.
Mm-hmm.
Oui, mais M. Paquette, c'est plus un combat personnel entre vous et votre avocate.
Mm-hmm.
Ça ne touchera pas l'intérêt public. Pourtant, un avocate défend le public.
Oui, mais peut-être, on va rester sur ça, mais
ouais.
Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez communiqué avec tous les journaux,
ouais.
La Radio-Canada,
personne
n'a voulu répondre.
Mais
cette journée-là, de la commission Charbonneau, ils ont...
J'ai eu deux appels.
Vous aviez
deux appels. Bon, je n'aimerais pas le nom.
Mais
il y en a une qui m'appelle.
De Radio-Canada?
Oui, Journal de Montréal.
Journal de Montréal, Radio-Canada.
Monsieur Paquette, j'ai pris connaissance de votre courriel. Un moment donné, ça me tente de dire, t'as pris connaissance de mon courriel? Ça fait quasiment trois semaines que tu l'as.
Oui.
Parce que j'aimerais avoir plus d'informations au sujet du juge Diziel.
Voilà,
oui. Ça me tente de dire, là, parce qu'ils ont parlé du juge Diziel, vous m'appelez, là.
Ouais.
En tout cas.
Ouais.
Mais vous reprochez
quoi au juge Michel Diziel?
Moi, je reproche au juge Diziel, c'est qu'il a laissé passer un conflit d'intérêts qui est évident
mm-hmm.
entre deux avocats.
Mm-hmm.
Parce que mon avocate, qui était Nancy Lecomte, et l'avocate adverse était Maria Vézina
mm-hmm.
lors du premier procès en 2011
oui.
pour la poursuite au civil de 280 530 et 98. Quand je te l'ai en désaveu de mon avocate, comme quoi le 24 février 2011, comme quoi que j'ai jamais accepté ce montant-là, c'est faux.
Et vous ont fait un montant de 5 000 $.
Hein? 5 000 $.
Alors,
le montant de départ,
c'était environ 280 000 $.
Ouais.
Et on tombe un montant de 5 000 $. Et c'est tout à fait, pour vous, c'est tout à fait
ridicule.
Et donc,
idiot. On pourrait nommer tous les noms qu'on voudrait.
Alors, vous le refusez. Vous l'avez refusé.
Ouais,
dit que je le refuse. Vous l'avez jamais accepté.
J'ai jamais accepté ce montant-là. Et j'ai deux témoins qui confirmaient à ce moment-là.
Mais non, mais le juge Diziel ici, là,
ouais.
Son implication, là, lui, c'était entre le procureur, j'imagine, de la couronne et l'avocate, et votre avocate. Donc c'est,
on peut rien prétendre.
Son rôle à lui
est de déterminer la vérité.
Oui.
Puis, comme j'avais fait des émissions précédentes, là, je ne reviendrai pas tout sur le sujet.
Oui,
c'est clair que mon avocate, ne peut pas dire si j'ai accepté ce montant-là.
Mm-hmm.
Avec des mots, oui, peut-être, ça doit quelque chose, genre, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous rapporter les paroles exactes.
Et ça, c'est la version de madame, de l'avocate, mais
ouais.
votre version à vous, vous
j'ai
êtes en train
jamais.
De dire, j'ai jamais, et en aucun
non.
moment, j'avais donné mon accord pour les 5 000 $.
Juste pour ouvrir une petite parenthèse, à ce moment-là, j'avais un gars qui travaillait avec moi, M. Jacques Poulin. Mm-hmm. Puis M. Poulin, il l'a dit le 13 mars mars, il l'a dit très très bien, et bien le 24 février, lors du désaveu,
ouais.
Sylvain n'était pas d'accord avec ça. Sylvain n'était pas d'accord avec cette offre-là.
Ouais, donc c'est 5 000, clair. 5 000
ouais. Ben c'est ça, c'est clair, j'étais pas d'accord. Puis là, ben les médias, là, c'est ça. Les médias m'ont téléphoné, m'a dit, Monsieur Paquette, on va voir votre version.
Ouais. Parce qu'il y a un gros poisson qui est...
Il y a quelqu'un qui a lâché le poisson dans l'eau, puis ouais. que là, ça a été dénoncé, le juge Desiel. Là, on va avoir ma version des faits.
Alors là, on va chercher tous ceux qu'ils ont...
Contre le juge Desiel, excusez l'expression, mais pour pouvoir y taper sa gueule davantage.
Oui, c'est exactement. Comment vous trouvez ça, vous, là? Vous
êtes... Répugnant.
Voilà.
Puis là... Là, mais là, c'est mon histoire, ils veulent pas la diffuser encore. Là, ils attendent que j'aille le procès, là, le 28 mai prochain.
Ouais, ouais.
Ils attendent que j'aille à procès pour savoir c'est quoi la suite. Si je gagne mon point de vue, évidemment, regardez, j'ai toutes les preuves.
Vous,
là, ils vont vouloir savoir mon histoire.
Mm-hmm.
Mais ils l'auront pas comme ça, mon histoire, c'est pas vrai.
Monsieur Paquette, vous dites que le juge Diesel, Michel Diesel, il a pu prendre position, c'est ce que vous entendez dire? Parce que moi, je sais pas votre...
Oui, parce que regardez, j'ai sorti le code de déontologie du barreau du Québec, entendez?
Oui.
Le petit grichement, parce que j'ai...
Non, mais monsieur Paquette,
ouais.
Il y avait une discussion entre le procureur et l'avocat, votre avocat.
Oui.
Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est quoi le rôle? Vous reprochez vraiment quoi à Michel Diesel, au juge, justement?
Pas avoir soulevé le point que les deux avocates sont en conflit d'intérêts.
OK. Mais est-ce que vous pensez que lui, il est derrière ça, derrière l'entente?
Je peux rien prétendre là-dessus,
mm-hmm.
mais sauf que c'est louche comme situation.
Okay.
Parce que regardez, dans le code du barreau 2010 sur ouais. les conflits d'intérêts, OK? Au point, et ici, c'est marqué au point H, éviter toute situation de conflit d'intérêts. Selon l'article du barreau 3.06.06, le point H2 dit « Comme les avocats sont considérés comme auxiliaires de la justice, la question du conflit d'intérêts est d'une matière d'ordre public.
Okay. »
Donc, tout le monde qui peut le dénoncer.
Exactement.
Si bon.
Tout à fait.
« De sorte que toute partie au dossier a l'intérêt suffisant pour la soulever. Même le juge d'office. »
Ah, voilà, c'est ça qui...
Et voilà, donc le juge Desiel, lui, savait que les deux avocats sont en conflit d'intérêts.
OK.
Et mon avocat, à ce moment-là, je n'aimerais pas de nom, pour pas porter encore, pour pas me faire poursuivre davantage. mon avocat, à ce moment-là, savait que ces deux avocats-là sont en conflit d'intérêts. Mais, plus ou moins un an plus tard, mon avocat que j'avais le 24 février 2011... est rendu maintenant avocat pour le bureau de la défense.
Oui, ça c'est...
On va dire coïncidence. Oui. Bien oui, coïncidence.
Voilà.
Tu sais, moi, je veux juste en venir à un point. Bon, moi, on me dit, j'accepte. J'ai eu 27 fractures.
C'est relativement grave, hein? On parle de la crâne.
Oui, oui. Si je peux les énumérer, on parle de 3 fractures de la boîte crânienne.
Oui.
Les deux sinus, la joue droite, la mâchoire.
Oui. Mais
juste là, on dit c'est grave.
Mais on parle de 27 en tout.
C'est ça.
Okay.
Fracture du tympan droit, oui. trois fractures de l'épaule droite, dislocation de l'épaule, clavicule droite cassée, 8 oui. côtes cassées, dont 4 à 2 endroits, poumon droit perforé, 2 vertèbres dans l'œil fracturées, une dans la colonne, à part de tous les dommages internes.
Et jusqu'à présent, là, c'est parce que votre combat il lit depuis trop longtemps,
oui.
jusqu'à présent, vous êtes convaincu, hors de doute, comme quoi... vous avez raison, finalement.
Oui. Et moi, je suis convaincu que j'ai raison. Puis
et c'est
les
la
deux
justice.
Témoins, ouais,
ouais.
C'est ça. C'est la justice qui veut me taper sur la gueule davantage.
Ouais.
Ça a passé dans le Journal de Montréal
ouais.
le 15 avril 2013. La Cour supérieure du Québec a donné raison au cycliste Marcel Desrochers
ouais.
qui a heurté un chat lors d'une balade en vélo. Les assureurs... des anciens propriétaires doivent payer 55 000 $ à la victime. Et j'aimerais juste soulever un point.
Pour avoir heurté un chat?
Oui, pour avoir heurté un chat, mais ouais. c'est que monsieur a eu une seule fracture okay. de l'épaule droite. Une seule.
Alors qu'il a eu...
55 000 $ Moi, j'en ai eu 27 et on dit que j'ai accepté 5 000 $
Merci, M. Paquette. J'aimerais juste, madame, revenir avec vous, là, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de cette émission-là. Vous êtes là, justement, pour nous parler de ces articles qui sont parus à Journal de Montréal et Journal de la Presse et tout. Et vous avez entendu aussi la version de monsieur... Quel est votre avis là?
Ben, j'ai l'impression que, un peu comme le scandale dans la construction, oui. une fois que ça va être enclenché, tout ça...
Ça va sortir, c'est vrai.
Ça va éclater au grand jour, et puis ça va donner le même résultat. Là,
alors, tout. Ça donne un espoir, comme quoi la DPJ, un jour, on va mettre tout ça en évidence?
Ben, il faut garder espoir, parce que c'est nos enfants qui sont en cause, et puis oui. On peut pas laisser les choses se dégrader comme ça, là. Éternellement, il faut intervenir, puis il faut intervenir en nombre, il faut se rassembler pour pouvoir faire bouger les choses.
C'est ça le conseil. Alors que vous donnez un conseil, un appel aussi à toutes les victimes de la DPJ ouais. de se rassembler?
Malheureusement, la DPJ garde un peu sous son contrôle ces parents-là ouais. en menaçant de leur couper certains c'est privilèges avec ouais. leurs enfants. Donc, la plupart des parents ont peur de...
La réaction de la DPJ.
D'entreprendre des démarches.
Mais oui. le problème aussi dans la société, tant qu'il y a aussi longtemps que la personne n'est pas victime d'un acte de quelque chose, oui. d'un acte judiciaire, oui. comme moi que j'ai subi présentement, oui. les gens, on dirait, veulent pas s'impliquer dans ça.
C'est ça
mais la journée que oui. ces personnes-là vont subir une injustice, oh là, on va s'impliquer, là. Là, on va vouloir mettre la main à la pâte.
Voilà, parfait. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Je remercie nos invités, Maria et Monsieur Sylvain Paquette, d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Merci à notre technicien de son, Mélanie. Alors voilà, merci à Radio Centre-Ville, 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et à moi, je vous dis à la prochaine.
Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent. À tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Tellement banal de parler de paix, de fraternité.
Et le Montréal touristique, le Montréal des manifestations culturelles, mais on oublie souvent le Montréal patrimonial. Radio Centre-Ville vous invite à renouer avec Montréal et son histoire. Le 27 mai de 11h à 13h et les 28, 29, 30 et 31 mai de midi à 13h, le 102,3 vous présente les balades montréalaises. Une randonnée parmi les plus belles rues patrimoniales de Montréal.
Tim Tim, bois sec. Vos enfants aiment se faire raconter de belles histoires? Amenez-les à la grande bibliothèque où l'écrivaine et conteuse haïtienne Marie-Célie Agnan anime une heure du conte en créole les dimanches de mai de 15h à 16h. Cric, crac, c'est gratuit, mais il est préférable de réserver en personne à la grande bibliothèque ou sur le site web à banq.qc.ca. L'heure du conte en créole à la grande bibliothèque pour toute la famille. Tous les dimanches de mai de 15h à 16h. Nap tirer conte, nap chanter. Une présentation de groupe Banque TD.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.